Alors, on va dire quelques petits points sur la paracha rapidement. Trouma, Tetzavé, les deux parachutes, elles sont extrêmement liées. Parce que dans Trouma, il y a l'ordonnance d'amener donc des Troumotes, des dons.
Des offrandes.
Des offrandes, des dons. Et ces offrandes vont servir à construire non seulement le Mishkan, les ustensiles du Mishkan, et aussi les habits des Kohanim. Donc, tout ce qu'il faut. Donc, c'est lié. Maintenant, lorsqu'on prend Parashat Trouma au tout début, alors il y a plusieurs questions qui se posent, des questions qui sont hyper connues, hyper classiques, mais je vais vous les répéter, à savoir, Vaydaber Hashem Moshe les morts, Daber ben Israël, Vaykrouli Trouma. C'est quoi Vaykrouli Trouma? C'est quoi Vaykrouli? Vous prendrez pour moi de la Trouma, des offrandes. Alors, en réalité, pourquoi marquez vous prendrez pour moi? Pourquoi pas, pourquoi il n'est pas dit ils donneront pour moi? On s'adresse maintenant à Bnei Israël. Chers amis, donnez, donnez. Donnez, donnez, on connaît sa chanson, oui. Donnez. Pourquoi il n'y a pas marqué donnez ici? Il y a marqué vous prendrez. Première question qu'on pose, d'accord? Question très classique que tout le monde pose. Deuxième question. Hachem, il s'adresse à Moshe. Et qu'est-ce qu'on dit? Parle au Bnei Israël, va y crouli, et ils prendront pour moi de la Trouma. De qui on parle ici? C'est qui ils prendront? C'est pas Moshe et Aaron. Chazal, ils disent que ici ce va y crouli Trouma vient exclure Moshe et Aaron. Ça veut dire que quoi? Ni Moshe ni Aaron n'avaient le droit d'aller ramasser la Trouma. Qui c'est qui devait aller ramasser la Trouma? Nous autres, les Bnei Israël, des préposés, des inspecteurs ou des, comment dire, ceux qui ramassent l'argent, des percepteurs. Des percepteurs, des gabaïm qui devaient eux ramasser la Trouma. La question que vous posez, pourquoi est-ce que le verset se fatigue à exclure Moshe et Aaron? Qu'est-ce que ça peut te faire que Moshe et Aaron aussi ils vont taper aux portes ramasser de l'argent? La troisième question, pas kavod pour eux, mais on l'aurait fait sans qu'on nous le dise. C'est pas kavod, on l'aurait fait nous-mêmes. Mais le verset vient préciser, pas Moshe et Aaron. Oh, t'inquiète, on n'aurait pas envoyé Moshe et Aaron. On va voir, on va voir. Un instant. Maintenant, lorsque vous lisez le premier, deuxième verset, il y a une redondance. Vous avez fait attention qu'ils répètent les versets, ils se répètent deux fois? Une fois la même chose? Je vous lis en hébreu, français. Ils prendront pour moi de la Trouma, mais et kol ish, de tous les hommes. Asher idvenu libo, qu'il. Idvenu libo? Le nedava, c'est le fait de donner, qui vont faire don de leur cœur. Tikehu et Troumati, vous prendrez la Trouma. Deux fois, tu m'as dit la même chose. Tu m'as dit. Vaïkrouli, là tu me répètes, Tikrou, la même chose. Vaïkrou, Trouma, à la fin tu m'as dit Troumati, la même chose. Med kol ish, et après tu m'as dit, et tout celui qui va donner de son cœur, c'est la même chose. Pourquoi tu me répètes deux fois la même chose dans le verset? Une autre question que je vous pose. Combien de choses on devait donner? Non, 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 il y a un compte, il y a des choses. À savoir, Zav, Kesef, Nechoshet, Techelet, Argaman. Combien il y en a en tout? 15. Pourquoi 15 choses? Pourquoi on devait donner 15 choses? Pourquoi on a besoin de Zav, Kesef, Nechoshet? Pourquoi tu fais pas tout en Zav? Tout en or, ou bien tout en argent, ou bien tout en cuivre? Pourquoi il y avait des trucs comme ça, des trucs comme ça, des trucs comme ça? Il fallait Techelet, du Argaman. Alors vous allez me dire, bah, c'est tout ce qu'il fallait pour construire le Mishkan. C'est faux. Il y avait d'autres choses qu'on avait besoin, et là-bas, on ne l'a pas demandé. Alors pourquoi il n'y avait qu'une chose à demander? D'accord? Donc ces questions paraissent, comment dire, anodines, mais en réalité sont porteuses, question, une question, donc porteuse féminin, sont porteuses d'un grand message, de beaucoup beaucoup de messages. La première chose, pourquoi il y a marqué Vaïkrouli Trouma? Il n'y a pas marqué Vaïtnouli Trouma. Vous connaissez toute l'histoire de petit Moïchi? C'est pas Moïchi. Moïchi, il se baladait avec son papa. Ils avaient dans le sac, ils avaient 10 petits pains. Et ils voient un pauvre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent 3 petits pains du paquet, ils le donnent au pauvre. Et papa, il demande à Moïchi, il dit, Moïchi, combien nous avons de pains? Il dit, ben, on en avait 10, on en a donné 3, il nous en reste 7. Mais non, Moïchi, tu sais pas compter. Il dit, comment je sais pas compter? 3, 10 moins 3, ça fait 7. Il dit non, les 7 là qu'on a dans le sac, on va les manger dans 5 minutes. Ils ne vont plus rester. Qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce que nous, il va nous rester? Les 3 qu'on a donnés aux pauvres. C'est la seule chose qui va nous rester. Et c'est pour ça qu'on nous dit, va écrouler Trouma. Vous croyez que lorsque vous allez faire un don, vous allez, on va vous enlever quelque chose, vous allez perdre quelque chose. Au contraire, tout ce que vous allez donner, c'est la seule chose qui va vous rester. C'est la seule chose qui va vous rester. D'accord ? Tous les dons qu'on a fait, tout ce qu'on a... Il y a une histoire aussi connue. Enfin, une histoire, c'est une blague, une histoire, je ne sais pas. Il y a un jour, il y a un pauvre... il venait ramasser de l'argent dans la synagogue. Et c'était un éveil de Shabbat où il y avait après un Yom Tov, donc il y a deux jours. Et donc, il demande à un bonhomme, il dit, donne-moi de l'argent. Alors, bonhomme, il sort un billet de 20 shekels, il lui donne. Il lui dit, il n'y a pas que Shabbat, il y a deux jours, il y a aussi Yom Tov. Alors, il sort un deuxième billet, il avait un peu de mal à lui sortir. Qu'est-ce qu'il lui dit, le pauvre ? Il lui a dit, aujourd'hui, tu pleures de me donner 20 shekels. Demain, tu vas pleurer de ne pas m'avoir donné 200 shekels. Parce que ces 20 shekels que tu m'as donné aujourd'hui, en réalité, c'est un nechès, un trésor, pas un nechès, comment on dit un nechès ?
Un bien.
Un bien éternel. Chaque pièce d'Alazaka que tu donnes, c'est un bien éternel que tu gardes les Olam Haba. D'accord ? Une histoire très connue avec le Abu Dharam, je vous la raconterai, le Barbanel, je vous raconterai une autre, occasion. Vaïkrou, en réalité, quand vous donnez, sachez que vous prenez chaque pièce que tu donnes, c'est une pièce que tu as pris, c'est une pièce que tu as mis de côté. Femme tout l'allait. D'accord. Maintenant, la deuxième question, on a dit que le verset, il vient répéter deux fois la même chose. Oui ou non ? Au nom de Rabbi Chaim de Brisk, qui explique comme ça. Il dit, en réalité, ici, on parle de deux sortes de personnes. Il y avait deux sortes de personnes. Il y avait les gens qui donnaient, ce qu'il fallait donner, tout le monde doit donner, alors on donne. Et il y a les gens qui donnaient avec le kiff, d'accord ? Ah ! Donc le premier verset, il a dit, vous prendrez de qui ? Met kol ish, de tous les hommes. Il y a les hommes ordinaires, d'accord ? Et vous prendrez de qui ? Vous prendrez Asher et Devenu Libo. Et vous prendrez aussi la trouma de qui ? De ceux qui donnent de leur cœur. Alors vous allez me dire, quelle différence ? Le Mishkan, il devait être construit... L'Ishma, mais plus que ça encore, il devait être construit avec de grandes intentions. Maintenant, il y a une expression qui est intraduisible en français. Enfin, je n'ai pas été capable de la traduire et je vous invite à essayer de la traduire. Il y a marqué « Kohar apoel benifal ». Tu arrives à la traduire la phrase ? Elle est dure à traduire. Ça signifie quoi ? La force de la chose qui a été faite, fabriquée, ou l'action qui a été faite, elle provient de la chose qui a été utilisée pour la faire. La chose qui a été faite, la force de la chose qui a été faite, provient de la chose qui a servi à la faire. Ça veut dire quoi ? Avec de l'argent sale, on ne construit que du sale. Avec de l'argent propre, avec de l'argent sain, on construit des choses saintes. Oui. Il y a un Zohar, je ne l'ai pas vu Zohar, comme ça on m'a dit, que si vous voyez un homme qui dépense son argent comme ça, il est mésalzel, il dénique son argent, c'est-à-dire qu'il dépense n'importe comment, alors force de dire que cet argent-là, c'est de l'argent sale. Pourquoi ? Il n'a pas de mashmaout, il n'a pas d'existence cet argent, il est pour rien. De l'argent qu'on a du mal à dépenser, d'accord, c'est de l'argent qui a une valeur, c'est de l'argent qui est fort. Ce n'est pas lié avec ton sujet, mais... Hein ?
Où il s'est travaillé.
Où il s'est travaillé. Ça, c'est déjà un menteur professionnel, t'as raison. Non, ou c'est une barre de fer qui... Ah, pour donner. Non, j'ai pas dit donner à la Zdaka. Créer la Zdaka, c'est autre chose. Mais de l'argent que tu dépenses n'importe comment, c'est de l'argent qui a pas de... Maintenant, quoi ? Il y a des choses que si on les fabrique avec de l'argent qui est propre, alors la chose qu'on va fabriquer, elle va avoir une force très, très forte. Si l'argent, il est sale, la chose, elle sera pas solide. Il y a une histoire connue avec l'admour de Satmer. Vous savez ce qu'il y a l'admour de Satmer ? Rabbeinu Yoel Misatmer, c'était un grand personnage. D'accord ? Lui, il était très connu pour être très antisioniste. Très, très antisioniste. Et il a fait un voyage en Eretz Israël à l'époque. Et alors, il y a plein d'histoires de ce voyage, plein d'histoires rigolotes sur ce voyage-là, où il est venu avec beaucoup d'argent, il a distribué beaucoup d'argent à plein de gens. Je raconte une histoire qui n'est pas liée avec notre sujet, mais entre parenthèses, elle est pas marrante, mais... Un jour, il y a un bonhomme qui est rentré chez le Rav, et il lui a dit « Oh là là, ma maman, elle est malade, mon papa, il est malade, mon fils, il est comme ci, ma mère, elle est comme ça, ma soeur, elle est comme ça, et ma femme, elle est comme ça. » Que des problèmes. Tous les problèmes du monde, il a raconté. Et le rav, il a entendu comme ça, il a dit, attends, qu'est-ce qu'il a sorti? Il lui a donné 1000 dollars. À l'époque, 1000 dollars, c'était une très grosse somme. Et il est sorti. Et donc, tout content d'avoir sauvé. Il sort, et quand il est sorti, il y a un bonhomme qui l'a vu sortir de chez le rav. Qu'est-ce qu'il fait? Il rentre chez le rav, il lui dit, rav, vous lui avez donné de l'argent? Il lui a dit, bien sûr. Je lui ai dit, mais quoi, il vous a raconté sa mère, sa sœur, sa femme, sa truc et tout. C'est pas vrai, c'est un menteur, c'est pas vrai, il est même pas marié. Il a aucun problème dans la vie, ce mec-là, c'est un menteur. Qu'est-ce qu'il a dit, le rav? Il a dit, ah bon, Hachem, ça fait plaisir qu'il y a un... tout ça, c'est faux, il n'a pas de problème, le monsieur. D'accord, ça l'a rassuré. Les 1000 dollars qu'apparemment s'en fiche. Mais au moins de savoir que ce juif-là n'avait pas de problème dans la vie, ah, c'était un soulagement, bravo. Donc ça, c'est là de mon sadmer. Maintenant, il y a une histoire comme ça. Où il a distribué, de l'argent. Il y a un jour, il y a un jeune avraire qui est rentré, un très tzadik, une grande famille, avec beaucoup d'enfants. Il est rentré chez le rav, et il lui a raconté donc sa vie. Et le rav, il a donné une somme, une certaine somme. Et il est sorti. Juste après, il est rentré un monsieur un peu plus ordinaire. Alors, ne me demandez pas les détails. J'ai raconté ce matin l'histoire, ils m'ont fait toute une salade. Comment le rav, il est capable de juger, lui. Je ne sais pas comment il a jugé. Mais en tout cas, il a vu que le monsieur était plus ordinaire que le premier. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné une plus grande somme. Ah, c'est bizarre. Ouais. En tout cas, il a donné une plus grande somme. Et il est sorti. Et le premier et le deuxième, ils se sont vus l'un l'autre. Genre, comment il t'a donné? Ah, il t'a donné 1000. Ah, moi, il m'a donné... moi, il m'a donné 500. Qu'est-ce qu'il fait le premier? Il re-rentre chez le rav. Il lui a dit, rav, pourquoi moi, vous m'avez donné moins que lui? Je suis moins bien que lui. Il lui a dit, non, toi, je t'ai donné un argent spécial. Je t'ai donné un argent que j'ai, un argent spécial. Si tu veux de l'argent comme à lui, j'ai donné, j'en ai plein, si tu veux, ça c'est plein, j'en ai plein du comme ça. Qu'est-ce qui s'avère? Que la demande de sa mère, il avait reçu beaucoup d'argent à distribuer, mais pas deux personnes différentes il avait reçu. Il avait reçu de l'argent qu'on va catégoriser comme ordinaire, de l'argent qui venait de commerce, pas forcément, on ne dit pas kasher, parce qu'il ne prenait pas d'argent ni des mechalel shabbat, ni du kasher, ni toutes ces choses-là, mais de l'argent qui était moins on va dire, tahor. Et il avait reçu de l'argent aussi de gens qui avaient donné, maman, de tout leur cœur, des gens qui avaient comment dire, mais si on défait pour cet argent-là, qu'il avait tout l'argent pur. Entre parenthèses, vous savez que le kotel, c'est le seul mur de l'enceinte du Beth Amikdash qui reste. D'accord? Chazal nous disent qu'avec quel argent ils ont construit ce mur-là, vous savez? Vous savez pas? L'argent des pauvres. D'accord? Les gens, les pauvres, ce mur-là, il a été construit avec l'argent des pauvres. Et donc l'argent des pauvres, il a été donné avec Messirut Nefesh, avec amour. C'était un don, exactement, à partir de soi. Et c'est ce mur-là qui est maintenu.
Pourquoi ce mur-là n'est pas plus...
Je ne sais pas pourquoi.
Vu que c'est plus...
Je ne le sais pas. Je ne sais pas. Quand viendra ma chère, tu poseras la question. Je ne sais pas. En tout cas, ce mur-là, vous voyez, comme il a été donné avec une grande pureté, une grande volonté, jusqu'à aujourd'hui, ce mur-là se maintient. Et donc c'est ça qu'il nous dit ici. Il y avait deux sortes d'argent. Il y avait ceux qui donnaient comme ça, parce qu'il fallait donner, et il y avait les gens qui donnaient de tout leur cœur. Ce n'était pas le même argent. Maintenant, ça vient répondre aussi pourquoi est-ce que Moshe et Aaron ne pouvaient pas ramasser de l'argent. Pourquoi? Imaginez-vous que vous êtes à la maison et toc, 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 vous ouvrez la porte, c'est qui? Moshe Rabbeinu. Ah, Moshe Rabbeinu, Aaron, shalom. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Nous venons ramasser de l'argent pour construire le Mishkan, ou de l'argent ou des dons. D'accord? Qu'est-ce que vous donnez? On donne tout. Moshe Aaron, c'est la honte, on va pas donner, quoi. Bien sûr, on donne tout. Maintenant, est-ce qu'on va tout donner de plein cœur? Peut-être que oui, peut-être que non, quoi. On est embêté. Quand le rabbin il vient, on est un peu embêté. Par on aurait préféré quelqu'un d'autre qui vient, comme ça on peut se disputer avec lui dire qu'on n'est pas d'accord, tu veux que je donne à la synagogue, tu m'as mis dans une place qui n'est pas bien, ou le masgan il marche jamais, pourquoi je vais donner? D'accord, mais quand c'est le rabbin qui vient, tu peux pas être... Tu fermes ta bouche, tu donnes. Et donc, le don n'aura pas été un don du cœur. Et nous, on veut que le Mishkan, il soit construit avec de l'argent pur, de l'argent qui vient du cœur. D'accord? Et si tu donnes de l'argent de gens qui sont barres de fer, qui l'ont donné avec une comme ça, ça va pas aller. Et ça répond aussi, j'ai une histoire après à vous raconter, et ça répond aussi pourquoi il y avait 15 choses à donner. Pourquoi 15 choses? Afin que chacun puisse donner... ce qu'il veut. S'il n'y avait que de l'or à ramasser, toc, 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 on vient ramasser de l'or, s'il te plaît, tu donnes quelque chose pour le Beth Amikdash, pour de l'or? Dis de l'or, mince, la seule truc que j'ai, c'est les boucles d'oreilles de ma femme. Attendez, il va arracher les boucles d'oreilles de sa femme. Comment pas, bah, ils vont se bagarrer. Il y en a qui sont sortis riches d'argent, il y en a qui sont de KSF. Peut-être que l'argent, ils ne veulent pas donner, ils aiment l'argent. Peut-être qu'il y en avait, c'était des pères Grandet. Vous avez lu Gilles Grandet, non? Là-bas, il aimait l'or. Lui, il ne pouvait pas. L'or, c'était quelque chose de très fort. L'or, il ne donne pas. Qu'est-ce qu'il donne? Oui ou non? Donc chacun, il donnait ce qu'il avait envie de donner. Et au moins, quand il le donnait de plein cœur. Et ainsi, le Mishkan a été construit avec des dons qui venaient du cœur. Et ça, le Lishma. Qui a dit alors Lishma? Bravo. Rashi dit Lishmi, d'accord. Maman, je dis Lishma. Avec du cœur, il a été donné. Il y a une histoire connue avec le Rav Steinman. L'histoire, c'est quoi? Le Rav Mishkovski, ça Rosh Hashiva, une fois, il est parti aux États-Unis ramasser de l'argent. Cette histoire? Non? Il va se ramasser de l'argent. Il arrive chez un monsieur très, très riche, comme ça, un monsieur qui a de l'argent, et il commence à lui raconter une histoire, c'est quoi? Qu'un jour, il y en a, il est parti voir Rav Steinman, et il lui a dit qu'il avait une affaire, une grosse affaire à faire, un gros business, et il pouvait gagner beaucoup d'argent, comme il pouvait en perdre beaucoup. Qu'est-ce qu'il devait faire? Le Rav, il a dit, écoute, moi en business, je ne m'y connais pas. Je ne peux pas te conseiller. Je ne sais pas qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Il faut demander à des gens qui te conseillent. Mais le conseil que je peux te donner, si tu prends un bon shoot-up, j'ai un bon associé, c'est sûr et certain que tu réussiras ton affaire. D'accord? Je connais un bon associé, tu le prends, tu es sûr de réussir. Alors le monsieur, il dit, ah ouais, c'est qui cet associé-là? C'est qui? C'est Akash Borou. Tu prends Akash Borou associé, tu réussiras ton affaire. Elle dit, ah ouais, et comment je fais pour prendre Akash Borou associé? Eh bien, le bénéfice, tu le partages et tu donnes aux Bnei Torah, aux gens qui étudient la Torah, aux pauvres, etc. Qu'est-ce qu'il dit? Ah non, non, mais Rav, vous savez, moi, tout ce que je gagne, je donne toujours ma serre, hein, toujours 10%. Il a dit, écoute, Coco, on te parle d'associé, on ne peut pas te donner 10%. Ah, c'est pas suffisant 10? Bon, alors, ok, je suis prêt à donner ce qu'on appelle le Chomesh. C'est quoi, Chomesh? 20. Vous savez qu'il y a une ségoula pour devenir riche, c'est donner le Maaser. Mais ce n'est pas le Maaser, c'est le Chomesh, 20%. 10%, c'est l'obligation, tout le monde doit donner 10%. Celui qui a envie de devenir riche, qu'est-ce qu'il doit donner? 20%, c'est le Chomesh. C'est difficile. Moi, j'ai un ami qui l'a fait pendant des années. Il m'a dit, mes affaires, en fusée, elles sont montées comme ça. Bien entendu, ça ne marche que dans l'argent honnête. Si c'est de l'argent sale, tu peux donner le Chomesh, tu peux donner 100%, ça te... Il n'y a rien qui se passe, d'accord? On ne parle que dans l'argent propre.
Il y a des gens qui attendent aussi.
C'est quoi les gens qui attendent?
Bah, qui ont donné et que pourtant ça changerait.
Alors le gras sur ça, il dit, vérifie si ton argent est bien propre. Et attends, la suite de l'histoire. La suite de l'histoire, c'est quoi? C'est que le Rav, il lui dit, non, Chomesh, c'est pas ça, on parle d'associé. Associé, c'est moitié-moitié. Il dit, comment moitié-moitié? Mais vous exagérez, mais c'est trop! Alors le Rav, il essaie de le convaincre. L'autre, il dit, ma pitom, c'est trop, je peux pas. Comment? Oui, non, truc. Qu'est-ce qu'il dit, le Rav, il écoute. Akash Borou, il n'a pas besoin de toi. Akash Borou, il est assez riche. C'est toi qui perds. T'as envie, toi, d'être associé avec lui, tu fais les conditions, tu veux pas, bah tant pis, bah, débrouille-toi tout seul. D'accord, le bon Dieu, lui, là, tout l'argent du monde, il lui appartient, donc il a pas besoin de toi. Et à la fin, le bonhomme, difficilement, il a accepté. Maintenant, cette histoire-là, le Rav Mishkovski, il raconte un bonhomme aux États-Unis. Et le bonhomme, il entend ça, il éclate de rire. Il lui a dit, tu sais qui c'est ce bonhomme-là, ce riche-là? C'est qui c'est? C'est moi, Anne, c'est moi. Et j'ai fait le conseil du Rav Steinman, et qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qu'il y a eu?
Je suis riche.
Non, j'ai tout perdu. J'ai pas du tout gagné d'argent. Ça n'a pas marché. Le conseil du Rav Steinman, il n'a pas marché.
Il a donné
par le cœur. Et donc, alors Ramishkovski, il entend ça, et là il est bloqué, il ne sait pas quoi répondre. Qu'est-ce qu'il va lui répondre? Non mais, quoi? Non, ça n'a pas marché. Il est reparti, il est retourné en Israël, il est parti voir Rav Steinman, il a raconté l'histoire. Le Rav Steinman dit, bien sûr, je me rappelle cette histoire-là. Je me rappelle, et tu peux même lui demander à ce bonhomme-là combien j'ai dû insister, combien j'ai dû expliquer et avec quelle amertume il a accepté de donner ces 50%-là. Il n'a pas donné de tout son cœur, il a donné comme ça difficilement, c'était pas... Dis, est-ce que tu crois qu'un Jbokhou, il veut un choutaf pareil, il veut un associé pareil. D'accord, que tu donnes pour... Genre, tu fais plaisir à la chaîne, tu te forces comme ça. Quand tu donnes, donne avec le kiff. Si tu dois déjà donner, alors donne avec le kiff. T'as un pauvre qui vient taper à la porte, ou il vient te demander la tzedaka. D'accord? Tu lui donnes, tu lui donnes pas. Tu décides pas lui donner, tu peux lui donner. Mais alors, si tu vas lui donner, donne-lui avec kiff. T'invites quelqu'un à la maison, tu vas lui donner à manger maintenant. Comment tu vas lui donner à manger? Est-ce que tu vas lui répéter, hey, l'entrecôte, elle vaut 150 shekels le kilo, hein, et les trucs, ça, et le vin, je te raconte même pas combien il coûte le vin. Fais-le kiffer, donne-lui, mets-le à l'aise, oui ou non? C'est ça qu'on dit, achète-vous l'imo, donne, mais kiff, donne avec joie. Et quelque chose que tu donnes avec la joie, avec le cœur, ça n'a pas la même portée que quand tu donnes comme ça, méchant et pas agréable. D'accord ? Donc pour tout ça, pourquoi ? Pour justement que le Mishkan soit construit avec de l'argent qui soit, pur, propre, lishma, avec le cœur. Et c'est comme ça qu'on construit les grandes choses. Quand on les construit avec le cœur, j'ai une histoire à vous raconter, une autre histoire à vous raconter. Le Rav Volbe, vous avez entendu le Rav Volbe ? Le Rav Volbe, c'est un grand personnage, il a écrit un livre qui s'appelle Allez Chour.
Allez quoi ?
Allez Chour. Maintenant, c'est un grand Majdihar. C'était. Il a. Après la guerre, il s'est occupé d'un séminaire de jeunes filles. D'accord ? Après la guerre. Je crois que c'était en Suède, l'histoire. Lidingo, je crois que c'était en Suède, un truc comme ça. Bon, en tout cas, c'est un monsieur qui a beaucoup œuvré pour le Ram Israël. Et lorsqu'il est venu en Eretz Israël, il a voulu construire une yeshiva pour les enfants, pour les jeunes, Nitzolé Shoah, les enfants qui ont risqué la Shoah. Et il est parti voir le Chazon Ish, lui poser la question, lui demander. Et le Rav, il l'a encouragé, il lui a dit de le faire. Et il lui a dit que lui devait être Rosh Yeshiva. Maintenant, il ne voulait pas le Rav Volbe, il ne voulait pas, il est d'une grande humilité, il ne voulait pas, et le Rav il a insisté, il a dit si ce n'est pas toi, c'est quelqu'un de beaucoup moins bien que toi et ça ne réussira pas. Il faut que toi tu le fasses. D'accord ? Jusque-là, tout va bien ? Ouais. Maintenant, il va lui dire, le Chazon Ish, il va lui dire un conseil. Il a dit et la Yeshiva, les premiers élèves de cette Yeshiva, et c'est une Yeshiva qui existe jusqu'à aujourd'hui, ça veut dire imaginez après-guerre jusqu'à aujourd'hui, 70 ans, comment elle s'appelle la Yeshiva ? Birkat Shmuel, je crois que ça s'appelle à Givat Shaul là-bas, je crois que c'est Birkat Shmuel. Jusqu'à aujourd'hui, il existe. Les premiers élèves, tu vas prendre des orphelins pauvres. C'est vraiment ce qu'on vient dans la vie, quoi. Eux, les premiers élèves que tu vas prendre. Et il dit pourquoi ? Il dit parce qu'une yeshiva, ça se construit sur la Messirut Nefesh et sur l'amour. D'accord ? La Messirut Nefesh, c'est le don de soi et l'amour. Et lorsqu'on prend des élèves comme ça, et on s'occupe d'eux, c'est vraiment montrer à Hachem qu'on aime Hachem. On fait ça vraiment pour la Torah. D'accord ? Si tu prends des élèves qui ont de l'argent ou qui sont des fils d'érudits, alors pourquoi tu fais ça ? Pour le kavod, pour l'argent. D'accord ? Si tu t'occupes des pauvres orphelins, ni de seul choix des gens qui sortent des camps, c'est vraiment tu cherches les problèmes, quoi. Tu fais ça, vraiment, c'est l'ishma. Un des élèves, je ne le connais pas personnellement, mais c'est le père d'un ami à moi, et c'est quelqu'un qui a traversé la Shoah, qui a perdu sa famille dans la Shoah, qu'après les camps, quand il y a eu la marche de la mort, il s'appelait Yekutiel Yehuda Fuchs, il s'appelait ce monsieur-là, il y a eu la marche de la mort, il s'est retrouvé quand les Allemands ont abandonné les prisonniers, ils les ont abandonnés, ils sont partis. Il s'est retrouvé comme ça sur un terrain vague avec d'autres milliers de personnes. Il pesait genre 25 ou 30 kilos. Il était malade du typhus et il était aveugle. Il est devenu aveugle du typhus. Et ses copains, ils lui ont dit, on sait que les Américains, ils sont à côté. Viens, on va essayer d'attraper, ils vont nous donner à manger, on va savoir. Il ne pouvait pas marcher, ils l'ont aidé à se porter. Ils l'ont porté pendant un kilomètre. Et à la fin, ils n'en pouvaient plus. Il leur a dit, laissez-moi sur le bas-côté, tant pis, allez-vous. Eux, ils sont partis. Ils ont trouvé le camp américain, ils sont rentrés et les Américains leur ont donné à manger. Le problème, c'est que quoi ? C'est qu'ils ont trop mangé, ils en sont morts. C'est après la guerre, après la Shoah, il y a plein qui sont morts de suralimentation. Ouais. En plus, les Américains, ils avaient dû manger qui était un petit peu riche, quoi. C'était pas des trucs.
C'était gras.
C'était vraiment le corned beef, toutes ces choses-là. Il y en a plein qui sont morts de ça, c'est terrible. L'amour de Klausenburg, il a un de ses fils, le dernier de ses fils qui est mort comme ça. Le 12e enfant, il est mort comme ça. Et lui, il était sur le bas-côté, genre mort, quoi. Et là, il y a une patrouille américaine qui passe, il voit un cadavre par terre. Et l'autre, il lui dit, attends, arrête-toi. Il s'arrête, il voit, il dit, ah, il est vivant. Ils le prennent, ils l'emmènent. Maintenant, comme il était à moitié mort, ils l'ont mis à l'infirmerie. À l'infirmerie, ils ont réussi à le soigner, lui donner à manger doucement, doucement, doucement. Et donc, ce monsieur, il a guéri, sa vue, elle est revenue. D'accord, il a commencé à grossir, il a commencé à tout, et il est venu en Eretz Israël, et il est parti dans la yeshiva du Rav Volbe, c'était un des premiers élèves, d'accord, orphelin, pauvre, tout ce que vous voulez, Et bien, Inara, il s'est marié, il a eu, je crois, 7 ou 8 ou 10 enfants, et chacun, il a eu aussi 10 enfants, et les enfants, ils ont eu 10 enfants. Et bien, Inara, quand il est mort, il avait des centaines de descendants, il avait des... Bon, en tout cas, lui, c'était un des premiers de cette yeshiva-là. Maintenant, et c'est comme ça que le Chassid Inara l'a dit, c'est sur ça qu'on construit une yeshiva. Et bien, maître, regardez ce qu'est la yeshiva, parce qu'aujourd'hui, elle existe, grâce à quoi? Grâce à ce conseil-là. C'est que quand il a construit la yeshiva, il a construit sur l'amour, sur la messie Nefesh. Exactement comme l'histoire du Mishkan. Il a fait mamash un don de soi, de tout son cœur. Et c'est ça qui a perduré cette yeshiva aujourd'hui. D'accord? C'est beau, quelle belle histoire. En tout cas, on va passer un petit peu par Parashat Tetzaveh. Parashat Tetzaveh, y a un verset très intéressant dans Tetzaveh. 28, 2. Vous êtes prêts ou pas? Donc là, dans Tetzaveh, c'est plus les ustensiles du Mishkan. Non, c'est, oui, ça va être plus les ustensiles du Mishkan. Mais au début, ça va être les... Comment on dit? Les habits du Kohen et du Kohen Gadol. Maintenant, comment est-ce qu'on devait fabriquer les habits du Kohen Gadol? Alors, on imagine qu'ils devaient être beaux, ils devaient être propres, etc. Eh bien, le verset vient préciser. « Ve'asita bigde kodesh le'aron achira » et tu feras les habits de Aaron, ton frère, les chavod ou le tiferet, ou tif aret, il dit ici. C'est quoi le chavod et le tif aret?
L'honneur et
la splendeur. D'accord? Les habits du Kohen Gadol devaient être honorables et splendides. D'accord? Maintenant, nous dit. La question que je vous pose, c'est que, en réalité, cette mitzvah-là, semble-t-il qu'on la connaît déjà? D'embellir une mitzvah, d'embellir quelque chose. D'où on l'a vu, il y a un pasouk dans Béchalar, dans la Asia Shir Moshe, dans la Shirat Hayam. Comment il dit le verset là-bas? Il dit Zekeli Vanveu, c'est notre Dieu et nous voulons l'embellir. Là-bas, la Gemara, elle apprend de ce verset-là qu'il y a une mitzvah d'embellir les mitzvot. Si tu dois acheter un étrog, alors achète un bel étrog. Tu dois acheter un talit, achète un beau talit. Il y a une mitzvah d'embellir les mitzvot. D'accord? Donc, Bezrat Hashem, quand vous allez acheter vos objets de culte, achetez des beaux objets de culte. Il y a une mitzvah dans ça, on a mis les mitzvot. Donc, pourquoi ici, on nous dit, le verset vient nous préciser que les big day, les habits du Kohen Gadol, devaient être kavod et majestueux? Bah oui, c'est comme toutes les mitzvot. Toutes les mitzvot, on doit les faire belles. Donc, on s'imagine bien... Hein, que lorsqu'ils ont construit le Mishkan, ils ont fait les habits du Kohen Gadol, ils n'ont pas acheté le tissu sur AliExpress. D'accord? Ils ont dû l'acheter sur, je ne sais pas, où ils ont acheté?
Je
ne
connais pas les maisons de tissu.
Ah, maisons de tissu, d'accord. Je ne connais pas les maisons de tissu. Comment ça s'appelle? La rue, l'avenue Montaigne, non? Au moins, avenue Montaigne, au moins. D'accord? Ils n'ont pas acheté là-bas en Chine le tissu. On se doute bien, et quand ils ont pris les couturières, qu'ils les ont fait, c'était des grandes couturières, on voit que c'était Betsalel, d'accord, qui ont fait, ils ont pris des grandes couturières, comme on les appelle des Chachmelev. Et on se doute bien aussi que quand ils l'ont fabriqué, ils ont fait un truc beau. Ils n'ont pas fait un truc... On n'a pas besoin de cette ordonnance. Pourquoi est-ce que le verset vient m'ordonner de faire des habits beaux? On sait que les habits devaient être beaux. On a une mitzvah, ça, Zekelivan Vehu. Plus que ça, non, pas plus que ça, vous comprenez la question? Qu'est-ce que vous répondez à la question? Quand elle est fausse, la question. Pourquoi elle est fausse? Je dis parce que tout ce qu'on a dit, Zekeli, Vanveu, qu'on a mitzvah d'embellir les mitzvot, c'est que c'est un plus qu'on fait dans la mitzvah. C'est-à-dire, la mitzvah, je peux prendre un étrog qui n'est pas beau pour faire la mitzvah. Je peux. Ou je peux prendre un talit qui est moche. J'ai le droit. Talit AliExpress, tu prends un talit, ça va, c'est pas grave. C'est un talit, c'est un talit. Il faut juste faire attention, qu'il ne soit pas en chatness. Maintenant, si j'en prends un beau, alors je rajoute dans la mitzvah. Seulement ici, c'est pas un ajout. La mitzvah, c'est qu'il devait être beau. À l'origine, il devait être beau. Et s'il n'était pas beau, eh ben c'est pas la mitzvah. Ça veut dire que si tu as sali le talit, pas le talit, l'habit du Kohen était sale ou était déchiré, donc c'était pas les kavod ou les tiferet, d'accord, c'est on transgressait un interdit. Vous allez me dire d'où je sais ça? Ben, le Rambam ici dans ce Chumash. Il ramène le Rambam, Bigde Keuna, Metsuvi Shiu Khadashim, il devait être neuf, naïm et beau, comme les habits des grands personnages. Et là, il y a un autre Rambam aussi qui nous dit que s'ils étaient déchirés, ou si on les déchirait, on les salissait, et ben on était chayav mita. Peine de mort, passible de mort, bidé shamaïm, d'accord, du ciel. Tandis que l'étrog, s'il n'est pas beau, on transgresse rien du tout. Contrairement, on fait la mitzvah. Alors vous allez me dire pourquoi on pose la question, si ça n'a rien à voir. J'ai répondu comme un... Alors en réalité ici, Rav Nevensal, il a une dracha sur ça, où il explique cette différence-là, où il dit ça vient nous enseigner un fondement fondamental. C'est qu'il faut un principe fondamental, c'est encore plus beau. Il faut faire la part des choses dans les mitzvot. Il faut faire la part des choses dans ce qui est important et ce qui n'est pas important. Ce qui est essentiel et ce qui est accessoire. Et très souvent, on a tendance à un peu mélanger le tout. D'accord ? Les choses accessoires, on les rend vachement importantes. Les choses importantes, pas importantes. D'accord ? On raconte une histoire où une fois, il y a eu une dispute entre des beaux-parents, et enfin des beaux-parents ensemble, où là-bas, il y avait une dispute. Qui c'est qui allait acheter le louis d'or ? Le louis d'or pour le aîné. Vous savez, il met un louis d'or, le Tunisien. Et il fallait absolument que ce soit la mère du Khatan qui achète, machin, dispute. Et oui, l'autre, il n'y a pas d'argent. Une histoire pas possible. Alors, à la fin, la mère du Khatan qui n'avait pas tellement d'argent, elle dit, bon, ok, d'accord, ok, ça, je vais acheter le louis d'or. C'est des disputes. Et après, la mère du Khatan, elle demande, dit, maintenant, pour Shabbat Khatan, vous êtes combien, vous, la famille de la Kala? Pour savoir, elle dit, pourquoi tu veux savoir? Elle dit, pour savoir combien de je dois vous trouver où dormir. Qu'est-ce qu'elle a dit, la mère de la Kala? Elle dit, non, mais t'inquiète pas, on rentre en voiture, non. Donc, d'un côté, le louis d'or, alors on fait toute une guerre pas possible, il faut que ça soit vraiment comme les détails de la coutume. Mais, Shabbat Khatan, t'inquiète, on rentre en voiture. Bon, c'est extrêmement grossier ce que je dis, c'est exagéré, tout le monde comprend que c'est complètement ridicule. Mais nous-mêmes, est-ce qu'on est moins ridicule que ça, au niveau ? Très souvent, on fait passer des choses qui sont très accessoires par rapport à des choses qui sont très graves. Vous connaissez le type qui met le talit ? D'accord ? On a dit qu'il a dit qu'il fallait balancer le talit là et là. Alors il prend le talit, il commence à le balancer. Alors au passage, il en fouette deux comme ça, il en fouette deux comme ça. D'accord ? Il a balafré quatre personnes. C'est normal, il faut mettre le talit, il faut balancer. Ouais, c'est normal, ou celui qui va embrasser le Sefer Torah, il a mis des coups de coude partout, c'est la guerre. Ils ont demandé une fois au Rav Etzraïm, il a dit, c'est quoi les intentions qu'on doit avoir lorsqu'on fait les Hosharanot? Vous savez, quand on prend le loulav et les trucs, on tourne, le Rav Etzraïm, et on tourne. Il a dit, quelle intention? Il a dit, fais attention, pas marcher sur les pieds des gens. On rigole, mais c'est très important, Ben Adam Lachaver, c'est très important. Et très souvent, on se permet, et ça c'est vraiment un message pour les Balei Tshuva. Quand je dis Balei Tshuva, je parle de moi, enfin, Alval, qu'on fasse Tshuva un jour. Mais je me rappelle qu'au début, ma mère, la pauvre, elle est à Shalom, je l'ai fait pleurer. Ma mère, je l'ai rendue folle. Quand on a fait tchouva, on est rentré à la maison, tout feu, tout flamme. Alors, les Tunisiens, ils mangent le msouki. C'est comme msouki, c'est les galettes dans le plat, là. Ouais. Je suis arrivé, ah, c'est péché. Mais je dis, maman, il dit, mon fils, mais on faisait comme ça à Tunis. Mais à Tunis, ils ne connaissent rien. Ça sourd, c'est péché. Et là, je l'ai fait pleurer, elle a pleuré. Et après quoi, avec les années, t'apprends les halakhot, et tu t'aperçois que c'est pas du tout péché, et au contraire, c'est comme ça le minhag, et au contraire, on raconte que le Chazon Ish, l'Ashkenaz, d'accord, et ben le Chazon Ish, lui, il avait, à Pessar, devant lui, il avait un verre d'eau avec un morceau de matzah dans l'eau. Pourquoi ? Pour montrer que lui, il mangeait la matzah trempée. Ça, toute la semaine, il avait comme ça devant lui. Et donc, en réalité, il n'y avait rien de grave dans ça. Et toi, qu'est-ce que t'as fait ? T'as fait pleurer ta mère, et t'as fait pleurer ton père, et t'as fait des disputes, et t'as fait des... Donc avant d'apprendre à faire la part des choses. C'est sûr, c'est l'exemple grossier, c'est exagéré, celui qui fait ça, c'est un vrai idiot. Mais il faut apprendre à gérer les choses. Qu'est-ce qui est important, qu'est Meïkar HaDin, et qu'est-ce qui n'est pas important? Et qu'est-ce qu'on peut... On peut renoncer à beaucoup d'histoires de grands rabbanim que toute leur vie, ils ont fait attention à des détails de l'halakha. Et lorsque, arrivé en confrontation... une halakha plus sérieuse, ils ont renoncé à ça. Qu'est-ce qu'ils ont avec Rav Steinman, très connu avec la banane, c'est encore une histoire, mais une autre avec le doud. À Pessah, il y en a qui prennent, qui n'utilisent pas l'eau du robinet. Ils prennent une cuve comme ça, ils remplissent d'eau, ils prennent cette eau-là. Et une année, sa femme, je crois que c'est ça l'histoire, hein, elle s'est trompée, elle a oublié de prendre de l'eau de là-bas. Elle a pris de l'eau qui n'était pas du doud. Ou elles n'ont pas branché le doud. Et elle dit à son mari, « Ouah, je me suis trompé, j'ai pas pris l'eau, c'était pas en Pessah. » Et genre, elle est désolée, elle avait de la, enfin, que son mari il va boire de l'eau qui est, enfin, qu'on n'a pas l'habitude de prendre à Pessah. Qu'est-ce qu'il lui a dit le Rav? Il a dit non, t'inquiète, c'est rien, ça c'est une roumra, c'est une mesure de piété qui est. Je voulais même arrêter de le faire. Je voulais même arrêter de le faire. Et depuis, il a arrêté de le faire. Jusqu'à que quoi? Maintenant, le Rav Tellement, c'était un super marmir. Vous lisez les livres là, il y a le livre là, Tzadikata Marifra, vous lisez les roumrotes qu'il avait, c'est, ça fait mal à la tête. Et quand sa femme est décédée, qu'est-ce qu'il a demandé le Pessah d'après? Qu'on remette le doute. Qu'on remette, qu'on prenne de l'eau que de là-bas. Exactement, Shalom Bayit a fermé sa bouche. C'est moi, je vais faire une roumra maintenant, je vais faire de la peine à ma femme. Il faut savoir faire ce jugement. J'avais encore plein de choses à vous raconter sur Tetzav à l'occasion. Bezrat Hashem. Hashem, Yé Bezranou, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Thank you.